contre 0 en faveur des Sags.
Je veux juste revenir rapidement sur le podcast que vous allez diffuser ce soir. Si vous aimez le regarder sur la chaîne YouTube, il va y avoir des photos qui sont exclusives, qui vont être ajoutées au montage de ce que vous avez filmé. Des photos que Steve a prises pendant l'événement.
Ça vaut la peine. Minimum de 3 degrés pour ce soir et cette nuit, max de 9 pour demain sous les nuages. De la pluie pour l'essentiel de la semaine. Malgré ça, prenez soin de vous, prenons soin des autres, puis prenez soin des vôtres. Tout ça dans le désordre.
C'était bien, là.
Ouais, c'est pour ça que je vais prendre off demain.
Salut, bye!
Salut. Boulevard. Québec. 102.1. Ville de radio. À l'écoute des citoyens. Notre programmation 100% parlée en semaine est là pour vous. 6h, Marceau le matin, avec Yann Marceau, Max Larouche et Jeff Fortin. 7h55, le Pit Stop avec Denis Gravel. 10h, le Point de Max, maintenant en duo avec Catherine Bachand. Le midi, on jase avec Jeff Fortin, Pascal CV et le caucus avec Antonin Niacarini. 14h, Gravel dans le retour avec Denis Gravel, Véronique Bergeron et Audrey Pinchot. 18h, Marceau le soir, Boulevard 102.1. Maintenant, 100% parlée en semaine. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Comme à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare, ex-ministre de la Justice. Il est maintenant chez bellemareavocat.ca, spécialiste de l'IVAC, de la SAC et de la CNSST. Quel plaisir de vous retrouver en ce lundi, Maître Bellemare.
Plaisir partagé, mon cher Yannick.
Qu'est-ce qui s'est passé, Maître Bellemare, avec la démocratie? Qu'est-ce qui s'est passé avec les démocraties? Là, maintenant, Maître Bellemare, on a un premier ministre non élu au fédéral en Mark Carney. Et on a maintenant une première ministre qui était députée, qui a été nommée par 9000 personnes première ministre du Québec en raison d'un François Legault démissionnaire. Qu'est-ce qui se passe avec notre démocratie?
Avec Carney qui va chercher des transfuges conservateurs et NPD,
ouais,
qui n'ont pas été élus pour ça, qui représentent 75 000 personnes. Parce que tu sais que les comtés au fédéral, Yannick, c'est 70-75 000. Au provincial, là, ça varie. Des Îles-de-la-Madeleine, ils sont quoi, une vingtaine de mille,
ouais,
peut-être même pas. Et ailleurs, c'est autour de 45-50 000. Mais au fédéral, c'est des grosses gangs, là, 75-80 000 personnes. Alors, les gens se déplacent pour voter une fois par 4 ans, puis des fois 5. Puis le député change de bord, il s'en va dans un autre parti. Tant qu'à ça, qu'il démissionne puis qu'il recommande une nouvelle élection, que les gens se prononcent, parce que évidemment l'électorat peut varier. En l'espace de 6 mois, tu peux décider de passer de libéral à NPD, à conservateur, etc. Mais l'électeur, il a le droit, lui, de changer d'idée parce que c'est lui qui est souverain.
Ouais.
Le député, lui, il a un mandat, puis ce mandat-là vient d'une majorité de citoyens. Mais Mme Gladue, là, ça fait dur, là. Hey, elle, là, hein, contre l'avortement, les marches avec les camionneurs, anti-vax, envoyez donc. Elle, c'est quelque chose, là. C'est vraiment, là, d'un bout à l'autre du spectre. Ben, elle arrive avec sa belle blouse rouge, là, rouge sang, là. Puis là, elle fait des conférences, puis elle fait des sourires, puis M. Carney, puis... Ben oui, mais à l'élection, elle a été élue avec une bonne majorité conservatrice dans un comté qui est conservateur depuis, je pense, 40 ou 50 ans.
Ouais.
Elle pourfendait M. Carney, puis là, elle s'en va avec lui après un an. Moi, ça me scandalise.
Parce c'est des opportunistes.
C'est
mais
vraiment du détournement de démocratie, c'est rire
exactement
du monde. Après ça, on se dit, les gens font plus confiance dans les politiciens, mais cherchez pourquoi.
Ouais. Exactement, exactement. Puis moi, j'ai pas de problème avec ce que quelqu'un devienne un député indépendant, qu'il soit fédéral ou provincial, ou même pour ce qui est des conseillers dans nos villes. Tu deviens indépendant, puis après ça, ben, aux prochaines élections, tu changeras de bannière si tu le désires. Mais là, de donner au gouvernement la possibilité d'avoir une majorité, j'ai un petit peu plus de difficultés avec ça. Ça me dérange pas. Quand il y a des partiels, puis la population décide que ce sera 2-3 députés pendant ces partiels-là qui vont faire en sorte que le gouvernement, comme ça va arriver, là, va devenir majoritaire, aucun problème avec ça. Mais les transfuges qui aident le gouvernement à devenir majoritaire, ça m'agace grandement. Et je me dis, est-ce qu'à un moment donné, il y a un gouvernement qui va changer les choses? Tu as l'avantage du gouvernement de changer les choses, Maître Bellemare?
Bien, c'est une question de probité. Mais tu sais, on a le système électoral. Trudeau, fils, Justin Trudeau, a promis en 2015 de refaire le système électoral. Donc, de donner finalement, garder le même mode de scrutin, mais de donner aux partis qui sont un peu moins importants là, la possibilité d'être représentés à la Chambre des communes, même s'ils n'ont pas une majorité d'électeurs dans chacun des comtés, question de faire une place à une certaine minorité, à un courant minoritaire de pensée. Donc, Justin, fils, l'a promis, il n'a rien fait de ça, puis il a ri de nous autres une fois l'élection arrivée, une fois qu'il avait son mandat. Écoute, au provincial, moi, je me souviens que ça a fait l'objet d'engagement du Parti québécois. Parce qu'en 1973, le Parti québécois avait fait élire 6 députés avec 30 % du vote. Alors qu'à l'époque, il y avait 102 députés à l'Assemblée nationale. Puis là, il déchirait sa chemise. Puis là, René Lévesque, dans son premier mandat, a promis une réforme du mode de scrutin parce qu'il disait que ça n'avait pas de bon sens, que tu avais juste 6 députés sur 102 avec 30 % du vote. Ça a commencé comme ça. Après ça, tu as eu les libéraux de Jean Charest, je sais parce que j'étais dans son équipe, qui ont promis une réforme de scrutin, puis c'est Jacques Dupuis qui était responsable de la réforme, qui n'a jamais rien fait de ça. Parce qu'une fois que l'élection a eu lieu, puis qu'ils ont eu leur majorité, surtout s'ils sont majoritaires, ils sont contents d'avoir une majorité de députés avec même pas 50 % des voix. Alors, on dirait qu'ils se scandalisent, c'est de bonne guerre, mais après ça, une fois élus, ils se disent « Sais-tu que c'est pas pire parce que ça nous a servi? » Alors, comme ça nous a servi, nous autres, pas les électeurs, pas la population, nous autres, comme parti politique, de façon bassement partisane, on ne veut pas le changer, le mode de scrutin. C'est pour ça qu'on a encore des gouvernements qui sont plus ou moins représentatifs à Ottawa comme à Québec, ils ne bougent pas. Fait que là, est-ce que le gouvernement du Canada, est-ce que Pierre Poilievre, par exemple, au niveau des conservateurs, à part de s'offusquer du fait que Mme Gladue soit rendue avec les libéraux, est-ce qu'il a proposé quelque chose de concret en disant, moi, si je suis élu, leader conservateur, je vais changer la loi et je vais obliger les gens qui veulent changer de parti de démissionner pour pouvoir provoquer minimalement une élection partielle ou bien une mécanique comme tu l'as déjà proposé, toi, Yannick, que si, je ne sais pas, moi, s'il démissionne, c'est le parti qui paye pour la partielle et non pas l'État. Mais en tout cas, il y a 56 000 possibilités. Mais au moins quelque chose. Alors, M. Poilievre, il s'est indigné du transfuge de Mme Gladue avec raison, comme la plupart des gens au Canada, de toute façon, qui ont trouvé ça inacceptable. Même il y a des libéraux qui trouvent que ça n'a pas de bon sens.
Ouais.
Ils sont gênés de voir Mme Gladue arriver avec son drapeau rouge, puis sa blouse, puis aïe, 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 puis mon Dieu qu'on est fin. Et il n'y a pas de proposition concrète d'aucun parti politique actuellement sur la table qui vise à empêcher ce type de situation-là. Donc, on s'offusque, on attend 72 heures. Après ça, on passe à d'autres choses dans l'actualité. Mais le problème n'est pas nécessairement réglé pour autant.
Un problème avec la démocratie. J'ai hâte de voir si ça se réglera un jour. Bon, parlons de ce qui s'est passé ici, plus près de chez nous, dans le secteur de Drummondville. Drummondville qui a été la plaque tournante politique ce dimanche. Drummondville, il y a d'excellents restaurants. Il y a une belle salle de spectacle aussi à Drummondville. Il y a un beau festival aussi à Drummondville. Mais normalement, quand on va à Drummondville, c'est parce qu'on fait un arrêt là, pour aller aux toilettes. Oui. Là, c'était l'élection de la première ministre ou du premier ministre qui avait gagné les élections, en l'occurrence Christine Fréchette. Est-ce que ça vous a surpris le pourcentage de vote pour Fréchette et pour Drainville?
Je pense qu'il y a 9 000 personnes qui ont voté pour elle.
Oui, on a...
Sur les 15 000 qui ont voté au total.
Exactement.
Donc, 16 000, fait qu'elle a comme 58 % ou presque.
Donc, alors, Christine Fréchette a obtenu 57,9 % des voix contre 42 % pour Bernard Drainville. Bernard Drainville qui a fait quand même une belle campagne, là, même si on donnait gagnante Christine Fréchette dès le début. Je trouve qu'à 42 %, c'est quand même pas si pire.
Ouais. Idéalement, j'aurais souhaité que ce soit M. Drainville, malgré tous les défauts, malgré son côté girouette, malgré ses virages à gauche, à droite, au milieu, on ne sait plus trop où il s'en va, mais je trouvais qu'il y avait, c'était le candidat le plus nationaliste,
ouais,
et le plus à droite ou le plus centre-droite. avec des propositions qui visaient réellement à contrôler les finances publiques, puis à prendre des décisions qui étaient courageuses au niveau de l'administration publique. Mais là, c'est Mme Fréchette qui est élue, puis c'est elle qui est première ministre. Moi, je pense qu'elle va subir le même triste sort de toutes ceux et celles qui ont vécu la même expérience. Je pense à Kim Campbell en 93, qui avait succédé à Brian Mulroney, puis qui s'est retrouvé avec deux députés à la Chambre des communes. Une défaite incroyable parce que le monde était écœuré des conservateurs. Ils ont voté pour Jean Chrétien. Je pense que c'était en 93. Au Québec, il y a des exemples aussi. Évidemment, Pierre-Marc Johnson, en 85, parce que Pierre-Marc Johnson avait remplacé René Lévesque à la chefferie du Parti québécois. Il a mordu la poussière en 85 parce que Robert Bourassa a effectué un retour spectaculaire avec une majorité en 85. Après ça, il y a eu Daniel Johnson, son frère, qui a succédé à Robert Bourassa et qui n'a pas gagné. Je pense que c'est en 94 quand finalement Jacques Parizeau a été élu premier ministre du Québec. Et l'autre, c'est Bernard Landry, qui avait succédé à Lucien Bouchard, puis qui s'est fait planter solide par un gouvernement majoritaire libéral de Jean Charest en 2003. Alors, quand le monde est écœuré d'un parti, d'habitude, même si tu changes la tête, puis tu changes, puis malgré le côté convivial, puis angélique de Mme Fréchette, là, j'ai rien contre elle personnellement, je pense que c'est une femme de plus entière bonne foi, puis je suis bien content qu'elle ait réussi cette ascension fulgurante vers le plus haut sommet de la démocratie québécoise, mais je ne peux pas croire qu'elle va être capable de renverser la vapeur puis de redonner un troisième mandat à la CAQ. Et je vais te dire que, bien honnêtement, je pense que Drainville aurait été... Il n'aurait probablement pas réussi à aller chercher un troisième mandat, mais je pense qu'au niveau des débats avec Milliard, puis Paul Saint-Pierre Plamondon, il me semble que Drainville, côté débatteur, d'abord, il a gagné ses deux débats. Ouais. Avec la CAQ. Alors, quand c'est un bon débatteur, c'est un bon communicateur, il y avait des bonnes idées. Mais là, Mme Fréchette, évidemment qu'on connaît fort peu, parce qu'elle est arrivée en 2022, donc on la connaît assez peu. Je comprends qu'elle avait la confiance de M. Legault, mais on ne sait pas trop où elle s'en va. Mais moi, j'ai regardé ce matin, là, elle a fait un bain de foule à Trois-Rivières.
Ouais.
C'est ce que la presse nous rapporte. Elle a fait un bain de foule à Trois-Rivières dans une boulangerie. Et elle a rencontré le leader le communautaire à bout. Ils sont en grève, le communautaire. Là.
Ouais.
Le communautaire à bout, elle a rencontré, puis eux autres, ils demandent de doubler le budget du communautaire. Alors, Mme Fréchette a dit, on va établir une filière de communication avec vous, puis on va regarder ça. Et alors, je ne sais pas, elle aurait peut-être pu dire, ben non, on donne assez au communautaire, on ne donnera pas plus. Si elle avait dit ça, là, je pense qu'elle aurait scoré dans l'opinion publique. D'après moi.
Oui. En même temps, est-ce qu'elle est au courant du dossier au complet? Parce que, tu sais, je vais être très honnête avec vous, là, dans le dossier du troisième lien, elle ne semblait pas être trop au courant du troisième lien à Québec. Et là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décidé de consulter. Elle a appelé des gens qui étaient un peu partout au Québec, ça. Là, ce bout-là, je le trouve un peu weird. Mais pour le reste, elle a consulté des gens d'affaires de Québec pour savoir bien, quelle est votre opinion par rapport au troisième lien, des gens qui étaient sur la rive sud, des gens qui étaient sur la rive nord. Elle a contacté les dirigeants des chambres de commerce aussi. Elle a fait son travail. Par la suite, elle s'est prononcée sur le troisième lien. J'aime bien les gens réfléchis qui s'informent directement aux gens concernés. Je me souviens, moi, d'un Philippe Couillard qui était venu me voir en studio puis qui m'avait parlé du pont. À l'époque, c'était le pont de l'île d'Orléans. Il m'avait dit ben, on doit rénover le pont de l'île d'Orléans, alors que le pont de l'île d'Orléans était complètement scrap. Ben, s'il avait jasé un peu avec les gens de l'île d'Orléans ou les gens de la rive nord, c'est quelque chose, c'est une information qu'il aurait eu en mémoire. Mais ils savent pas tout. Hein? Donc, moi, quelqu'un qui se retire un peu, réfléchit, passe quelques téléphones à des gens concernés, puis par la suite arrive avec une réponse, je suis pas très juge de ça. En fait, je trouve ça juste parfait. Là.
Non, mais regarde, le communautaire, là, les organismes communautaires, ouais. J'ai milité longtemps dans des organismes communautaires, puis je suis d'accord avec qu'on ait du communautaire au Québec.
Ben oui.
Mais on a le gouvernement de la CAQ, ce que les responsables du communautaire en ont dit, c'est qu'il avait doublé ou presque le budget du communautaire depuis qu'il était au pouvoir. Ça, Mme Fréchette devrait savoir ça. Le communautaire, il sort d'une grève de 2 semaines. Là. Ils ont arrêté partout au Québec. C'est quand même pas un dossier ancien, c'est tout à fait contemporain, c'est dans l'immédiat. Alors, elle dit, je vais regarder ça, puis on va faire un canal de communication. Mais le gouvernement est dans le trou, là, mais dans le trou solide, là. Alors, probablement que dans sa tête, elle s'est dit spontanément, bien, je ne peux pas donner de l'argent de plus aux communautaires. Mais en même temps, elle dit, je vais regarder ça. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne prend pas de décision? Ça veut dire que ça va-tu être tout le temps pareil?
Mais elle peut-tu y réfléchir?
Deux mois de débat, là.
Ouais. Mais c'est ça, elle peut-tu y réfléchir? Moi, je vais y donner... je vais lui donner un peu de temps pour arriver. D'ailleurs, on a prorogé l'Assemblée nationale pour ça, là, pour lui laisser le temps de prendre connaissance de tous les dossiers qui la touchent. Là, est-ce qu'il y aura un remaniement au niveau du cabinet ministériel? Ça, c'est une question que je voulais vous poser. Mais on va revenir au mois de mai, puis on va commencer à travailler. J'aime bien les gens qui réfléchissent, Maître Bellemare, là, puis qui n'ont pas un avis sur tout sans y réfléchir. Dans ce cas-ci, moi, pour ce qui est de Mme Fréchette, bien que ce n'était pas ma préférée, je peux vous dire que ça me rassure de voir quelqu'un qui réfléchit avant de se prononcer sur quelque chose.
Oui, c'est correct. Réfléchir, c'est correct, mais moi, ce qui me gosse, c'est quelqu'un qui dit qu'il réfléchit, mais dans le fond, qui a pris sa décision, mais qui ne veulent pas l'annoncer parce qu'il va perdre des votes.
Ah, ben
ça,
là,
c'est une autre game.
Ben oui,
ça,
c'est ça.
Autre affaire.
Ouais.
Je vais regarder ça, on va former un comité, on va réfléchir. Pour moi, c'est toutes des phrases identiques, là. Mais je trouve qu'on est en avril, l'élection est dans 6 mois, enlève-en quasiment 3 pour l'été. Il ne reste pas grand temps. Et puis, il n'y a pas de congrès à l'horizon, puis il n'y a pas de refonte des engagements de la CAQ à l'horizon. Puis on sort d'une campagne électorale, d'une campagne à la chefferie. Puis je te dis ça, juste ça comme ça. Je trouve que... Puis Drainville, il a reproché à quelques reprises pendant la campagne au leadership de la CAQ de commencer à réfléchir. Il faut que je réfléchisse parce que tu as tout le temps sa réponse. Je ne sais pas si ça va être « Madame réfléchit ». Oui, elle a le droit de réfléchir, mais je trouve qu'il y a un certain nombre de réponses qui, normalement, devraient être acquises à ce stade-ci. C'est juste ça que je te dis. Parce que le fait de réfléchir, ce n'est pas un problème, mais quand tu as deux pieds dans la campagne électorale, normalement, tu devrais avoir des positions. Sur la question du communautaire, je t'avouerai que ça m'a surpris. Parce que ça n'a pas été une réponse du type, bien là, on va regarder ça ou on a sûrement des budgets pour ça, etc. Est-ce qu'elle va arriver avec... Parce que le communautaire demande rien de moins que de doubler les budgets qui sont actuellement sur la table. C'est du bacon, là. Alors, elle n'a pas de position là-dessus. On va faire un canal de communication. Je ne sais pas. Je trouve que ça ressemble à du bourrassisme. Parce que moi, j'ai connu Bourassa dans les deux mandats, là. Je suis assez vieux pour ça. Je l'ai connu de 70 à 76, quand il a été battu par l'évêque. Je l'ai connu de 85 à 94. Puis c'était tout le temps ça, Bourassa. C'était « on va regarder ça », puis c'était mou, puis c'était pas tranchant. Mais là, j'écoutais les commentateurs hier, puis il y avait une certaine unanimité dans le fait qu'il fallait que Mme Fréchette arrive avec des réponses claires. Pas toujours les réponses les plus populaires, mais montrer qu'elle a du « guts ». Elle a du guts. On est dans le trou. On est dans le trou parce qu'on a eu des premiers ministres qui n'en avaient pas de guts, qui ont laissé aller notre réseau routier d'un nid de poule, qui ont laissé aller les écoles tout croche, qui ont laissé aller la santé que ça prend un an et demi avant de voir un spécialiste. Alors, on a eu de ça, là, des gens qui ont réfléchi, mais qui n'ont pas agi. Alors, là, Mme Fréchette, elle pourrait s'affirmer, mais je ne sais pas si c'est dans sa nature. On le verra, puis dans un mois, on pourra faire le point là-dessus, mais jusqu'à maintenant, je trouve que c'est beaucoup là, de réflexion.
Maintenant, selon vous, est-ce que Christine Fréchette va être capable de travailler avec Bernard Drainville et l'inverse aussi? Est-ce que Bernard Drainville va être capable de travailler avec Christine Fréchette?
Je pense qu'ils sont capables ils sont capables de travailler ensemble, mais j'ai l'impression que Drainville, s'il s'aperçoit que Fréchette ne remonte pas d'un sondage assez rapidement, là, puis je te dirais dans un horizon d'à peu près 2 mois, là, d'ici à la mi-juin, là, si Drainville s'aperçoit que ça ne relève pas, là, puis qu'elle s'en va peut-être même en descendant, ça se pourrait qu'il y ait des départs ou des frictions. Je ne sais pas. Mais je pensais hier, je me disais, bien, Québec solidaire, ils ont leur co-leader.
Co-porte-parole. Là,
le gars, la fille, là.
Ouais.
Je me disais, est-ce que ça ne sera pas une idée d'avoir deux co-porte-parole, là, Drainville qui s'occuperait de la question nationale, l'identité, les relations avec les autres provinces, toute cette question sociale-là, puis elle qui s'occuperait plus de l'économie. Peut-être que, dans le fond, il irait chercher plus d'appui parce qu'il serait deux fronts, mais là, c'est sûr que Drainville, c'est un gars qui a l'habitude de décider tout seul. Quand il était à l'éducation, je ne pense pas qu'il consultait bien du monde avant de prendre position. Puis c'était une de ses qualités, d'ailleurs.
Il y a des rumeurs qui enverraient peut-être, puis c'est des rumeurs qui circulent à Québec, Maître Bellemare, je ne sais pas si ça s'est rendu jusqu'à Montréal, là. Mais il y a des rumeurs qui envoient Bernard Drainville chez le Parti conservateur du Québec avec Éric Duhaime. Est-ce que vous croyez à ça?
Ben moi, je pense que ça pourrait arriver. Si ça ne marche pas avec la CAQ, ce n'est pas impossible qu'il fasse ça. Est-ce que M. Duhaime sera bien content de voir arriver un homme de l'envergure? C'est toujours le fun d'avoir des grosses épaules dans ton équipe, mais en même temps, il ne faut pas qu'il y ait les épaules tellement larges qu'il va prendre ta place. Puis Drainville, c'est un gars qui veut bien être « my way or the highway ». Puis je pense que l'envergure, justement, pour être le chef, là, il arrivera au Parti conservateur. En tout cas, si on se fie à l'élan de droite qui l'a amené là où il est aujourd'hui, là, au cours des derniers mois, à la chefferie de la CAQ, il n'y a rien d'impossible. Il y a aussi Jolin Barrette qui pourrait se retrouver peut-être au Parti québécois. Si jamais il s'aperçoit que... Mais lui, je l'ai dit il y a deux mois, puis je le redis, Jolin Barrette pourrait être un bon candidat pour le PQ. Il pourrait apporter de la crédibilité. Et si ça ne marche pas, son projet de constitution du Québec, là, à son goût, là, puis que ça ne remonte pas d'un sondage, là, j'ai l'impression que c'est le genre de candidat, là, à l'âge qu'il a, avec la carrière qu'il a connue, qui pourrait être très, très, très intéressant pour le PQ. Je pense qu'il va y avoir du mouvement. Je ne peux pas croire que ça va rester comme ça, puis que tout le monde va rester dans la même équipe. Je pense qu'il va y avoir du mouvement, mais contrairement à ce qui se passe au fédéral, où là, on est en plein mandat électoral, il n'y a pas d'élection à court terme d'annoncer, ce qui favoriserait peut-être un changement d'allégeance, c'est l'élection. Tu sais, si Jolin Barrette dit « Moi, je me présente au Parti québécois, j'annonce ma candidature au Parti québécois quelque part à la mi-août », bien là, c'est pas un transfuge. Il va chercher un mandat. Pas pareil. Puis n'oublie pas que dans le comté de Bordua, où est Jolin Barrette, ça a toujours été péquiste, là. Ça a été Dufresne, ça a été Jean-Pierre Charbonneau, ça a été, je pense, Pierre Curzi aussi, dans le comté de Bordua ou à Saint-Hilaire, où est Jolin Barrette. Ça a toujours voté PQ, sauf quand Jolin Barrette était candidat de la CAQ, où là, les gens ont voté CAQ, puis ça a voté oui au référendum en 95. Alors, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de difficultés à être élu dans l'équipe de Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est le genre d'affaires auquel je pense des fois, puis je me dis, à qui va le mieux l'habit, là, tu sais? Dans quel genre de Drainville au Parti conservateur, bien là, il s'en irait dans l'opposition. Ouais. Parce que même si Duhaime a beaucoup de succès à la dernière élection, on y prête pas bien plus que 8 à 12 comtés. Alors, ça étend-tu Drainville de s'en aller dans l'opposition? Je pense pas. Je pense pas que ça lui conviendrait. Moi, il est allé en 2022, il s'est présenté parce que François Legault, il a dit « Bernard, viens-t'en dans mon équipe ». Il a fait la même chose avec Monsieur Santé, là.
Christian Dubé.
Oui, c'est ça. Il a fait la même chose avec Martine Biron. Il a fait la même chose avec Christine Fréchette. Il est allé chercher des nouveaux noms pour son mandat de 2022. Alors, Bernard Drainville savait bien qu'il allait être élu, surtout qu'il a été élu sur la promesse du troisième lien. Alors, il était prêt à faire bien des pirouettes hein, quand il a dit « Achalez-moi pas avec les GES, là, voulez-vous arrêter de je sais pas quoi avec les GES? » Parce que les journalistes disaient « Le troisième lien, ça va amener de la pollution. » Puis, il avait fait cette espèce de déclaration-là, c'était en faveur du troisième lien, finalement. Fait qu'il est capable de faire bien des pirouettes, M. Drainville. Alors, peut-être au Parti conservateur, mais honnêtement, je serais étonné. Moi, personnellement, ça m'étonnerait. Parfait. Ça serait encore là un bon coup pour Éric Duhaime. Mais ça voudrait dire qu'il s'en irait idéalement s'il était élu dans l'opposition. Moi, je pense qu'il y a plus de chances, s'il est déçu de la CAQ, là, il y a plus de chances qu'il nous annonce là, quelque part à la fin juin là, que finalement, réflexion faite, j'ai consulté ma famille, puis finalement, j'ai décidé de me retirer, puis de retourner dans une carrière brillante dans les médias.
Avez-vous eu vent qu'il y avait eu un sondage léger qui est paru hier?
sur...
Ben, c'est un sondage léger sur les intentions de vote, Maître Bellemare, mais ça a tellement passé dans le bas. Il y a tellement eu une éclipse médiatique avec l'élection de Christine Fréchette qu'on n'a pas parlé de ce sondage-là. Moi, je l'ai ramené ce matin dans le show du matin, ce sondage-là, mais c'est un sondage qui est encore une fois surprenant. Dans ce sondage-ci, en date du 12 avril, s'il y avait des élections demain matin, Maître Bellemare, c'est le Parti libéral du Québec de Charles Milliard qui l'emporterait avec 33% des votes. Mm-hmm. Paul Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois sont bons deuxièmes. Encore une fois, une chute d'un point par rapport au dernier sondage d'il y a quelques semaines à 32%. Donc 32%. Et après ça, la troisième et la quatrième position sont quand même assez loin des positions de tête. La Coalition Avenir Québec serait troisième avec 13%. Le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime serait quatrième avec 12%. Et enfin, en fin de peloton, ce serait le Parti de Québec solidaire avec 8%.
Oui, mais ça, c'est des pourcentages de l'électorat en général. Mais ouais. Le vote libéral est très concentré à Montréal. Ce que tu me dis là, ça donne un gouvernement péquiste minoritaire. Pourquoi? Parce que le PQ va chercher peut-être 15-20 comtés dans le Québec francophone par 1000 ou 2000 voix de majorité, alors que les libéraux dans Darcy McGee et dans Nelligan, ils ont 98% de vote.
Maître Bellemare, je regarde la région métropolitaine de Montréal. Pour ce qui est du Parti libéral, on obtient 42% des intentions de vote contre 27% des intentions de vote pour ce qui est du Parti québécois.
Oui, c'est ça, mais je veux dire Drummondville, Arthabasca, Saint-Hyacinthe, Marie-Victorin, Trois-Rivières, c'est pas sûr que ça va voter libéral. En tout cas, moi, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une grosse concentration. Aujourd'hui, tout le caucus libéral est de la région de Montréal. Alors, ils sont élus à Montréal, puis ils ont eu 500 000 votes, 500-600 000 votes, à peu près la même chose qu'Éric Duhaime, qui n'a pas un seul comté, parce que le vote conservateur est réparti partout au Québec, puis il arrivait troisième, quatrième, des fois deuxième. Alors que les libéraux, dans la région de Montréal, allaient chercher des candidats assurés. Ils sont toujours sûrs, les libéraux, d'avoir 10-15 députés. Peu importe, il y aurait une catastrophe nationale, il y aurait au moins ça. À cause des comtés comme Jacques Cartier, Darcy McGee, Nelligan, tout ça, qui sont des comtés fortement... Bien, c'est le Parti Égalité, autrefois, qui était élu dans ces comtés-là. Il y avait eu 4 députés quand il s'était chicané avec les libéraux. Alors, ça ne veut pas dire, même s'il y a 2 points ou 3 points de plus pour Milliard dans l'ensemble du Québec, que ça traduit le nombre de comtés. C'est ça l'affaire. C'est ça qu'il faut considérer. Et M. Legault, qui a eu, 90 députés en 2022, là?
Ouais.
90 députés, je pense, au total.
Autour de,
c'est un record, d'ailleurs. Il avait réussi à aller chercher une assez bonne majorité, puis il n'est pas bien présent sur l'île de Montréal.
Maître Bellemare, comment Paul Saint-Pierre Plamondon, le 2 décembre 2025, comment il pouvait avoir 39% des intentions de vote? Puis là, maintenant, on est beaucoup plus bas. Qu'est-ce qui se passe avec Paul Saint-Pierre Plamondon? On a passé de 39 à 32 en quelques semaines. C'est son attitude, c'est sa façon de réagir, c'est les sujets qu'il aborde, sa façon de parler aux Québécois et aux Québécoises. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Parce que j'ai l'impression qu'il va nous faire un Pierre Poilievre.
Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il est encore assez solide, mais toute la question référendaire est importante. Je pense qu'elle est pertinente. Évidemment, ceux qui ne veulent pas de référendum ou qui sont contre la souveraineté ou quelque forme de consultation constitutionnelle que ce soit, ils vont voter pour les libéraux. Les libéraux, ils ont toujours, c'est toujours un peu la valeur refuge, là. Les gens qui ne veulent vraiment pas de référendum vont voter libéral. Et plus Paul Saint-Pierre Plamondon maintient son cap sur un référendum dans le premier mandat, plus ça baisse. Il y a des gens qui vont accepter ça, qui vont dire « je vais voter PQ à l'élection, mais je vais voter contre la souveraineté s'il y a un référendum ». Mais quand ils regardent la facture d'une consultation populaire, d'un référendum, ils se disent « bien, peut-être qu'on pourrait mettre l'argent ailleurs que dans un référendum ». Puis quand il y a une alternative intéressante qui se présente, comme M. Milliard, grand sourire, sympathique, gentil monsieur, on ne le connaît pas assez pour l'haïr, alors les gens vont, euh, les gens vont penser que ça peut être un candidat intéressant. Mmh. Écoute, je pense que les gens ne savent pas trop, là. Je pense qu'une semaine, c'est PQ parce qu'il a fait une belle déclaration. Il est passé à tout le monde en parle. Il a une bonne idée quand il a réagi à telle ou telle initiative du fédéral. On va voter PQ. Après ça, c'est Milliard parce que Milliard fait un grand sourire puis il fait une bonne performance. Des fois, les sondages aussi vont influencer. Les gens se disent, moi, je suis un winner. Les libéraux sont en tête, je m'envoie libéral parce que j'aime ça gagner. C'est bien drôle. Hein? Okay. Mais l'électorat, c'est une drôle de bébite, là.
Moi, je regarde les sujets qui sont souvent abordés par nos politiciens. Puis bien honnêtement, si j'étais principal conseiller de Paul Saint-Pierre Plamondon, je revirerais ça de bord. T'sais, moi, là, la tenue d'un référendum sur la souveraineté du Québec, je comprends là, que c'est sa promesse phare, là. Mais concrètement, en théâtre de guerre, là, avec mes amis, avec ma famille, avec la job que j'ai, il n'y a personne qui me parle de la souveraineté du Québec. Là. Ça n'intéresse pas le monde. Ce qui intéresse le monde, Maître Bellemare, c'est l'économie, c'est l'emploi, c'est les logements, c'est l'éducation, c'est le coût de la vie, le pouvoir d'achat, c'est la santé. On est-tu capable de se faire soigner au Québec? Ma mère qui est à l'hôpital, peux-tu se faire soigner au Québec? La souveraineté, là, on en parlera une fois que tout ça sera réglé. Est-ce que ça se peut que ce soit ça qui achale les Québécois?
Ben, je pense que les
gens... Ils nous parlent pas.
Ben, je pense que la souveraineté, c'est une question qui est plus long terme. Le statut constitutionnel du Québec dans le Canada pour les 150 prochaines années, peut-être 200, ça, c'est une question qui est beaucoup plus à long terme, qui touche le statut du Québec, alors que les électeurs, en général, ont des préoccupations là, le nid de poule en face de chez nous.
Exact.
Ils me reviennent en face tous les matins. Ma mère, comme tu dis, qui est à l'hôpital ou qui veut rentrer à l'hôpital puis qui n'a pas de place. Ma fille qui étudie dans une école où il y a toutes sortes de problèmes de climatisation. C'est ça qui intéresse les gens.
T'as raison.
Puis, en fin de semaine, j'ai été à Montréal. Je faisais mon bout de temps que je te parle à Montréal. Je suis allé à Montréal, j'ai circulé sur l'île en auto. OK?
Je regarde, là, Donald Trump, as-tu fait un bombardement sur l'île écoute, de Montréal?
Écoute, ça m'a frappé. J'entendais des choses. Les gens disaient à Montréal, tête à tête. Je regardais les chroniqueurs, Patrick Lagacé, la semaine passée, il a fait une très bonne chronique là-dessus. Alors, mais honnêtement, là, j'ai failli briser mon char. Je te dis, là, puis pourtant, surtout dans les petites rues, là, puis même Saint-Laurent, ça n'a aucun bon sens, mais ça, c'est le résultat de laxisme incroyable. Puis là, à un moment donné, ce que nous dit Richard Martineau dans sa chronique en fin de semaine, c'est est-ce que les politiciens vont avoir le courage de dire c'est assez au niveau du réseau routier, on arrête de l'élargir, de l'allonger, parce qu'on a 30 000 km de route régulière, puis 30 000 autres de chemins de terre, puis de chemins ruraux. Okay? Ouais. On a 60 000 km en tout. On peut s'arrêter là, mais si on arrête là, on dit non au troisième lien. Ah ben là, ça va crier à Québec.
Au prorata de la population, on a plus de routes qu'en Ontario. Là. C'est quand même assez...
Ben, on est tout éparpillé. Ouais. On a un territoire quatre fois plus grand que la France.
C'est quand même assez hallucinant. Là, on est en train de penser à remettre des routes de gravel au Québec. Ça n'a aucun sens. Mais il m'est arrivé la même chose à Montréal. J'allais voir la game du Canadien là, 2 semaines. Puis le nombre de détours pour arriver au Centre Bell est juste hallucinant. Même les policiers semblent pas être capables de se parler pour se dire « Hey, on envoie les gens où, à quel endroit? » Les policiers sont dans des endroits stratégiques, mais à un moment donné, il y avait des indications qui étaient données par le policier, puis ils nous envoyaient carrément dans un sens unique, ce qui fait en sorte que les gens devaient ne pas écouter le policier qui nous envoyait à ces endroits-là. Fait que moi, j'ai suivi les autres. Mais juste pour arriver au Centre Bell, là, le nombre de nids de poules que j'ai vus, c'est juste hallucinant. Mais ça, c'est une gestion déficiente de nos infrastructures. On le voit en santé, on le voit en éducation, on le voit sur nos infrastructures routières aussi, Maître Bellemare. Mais moi, juste pour en revenir à Paul Saint-Pierre Plamondon, là, les sujets qu'il aborde, sa façon de chicaner avec les gens... son attitude en général, il n'est pas très souriant. Il a de l'air tout le temps fâché. J'ai l'impression que c'est ça qui le fait descendre dans les sondages. Je dirais personnellement...
Il s'était comme pogné aux cheveux avec
ah oui.
juste la bombe ou je sais pas trop.
Je dirais personnellement, écoutez vos conseillers qui font de la politique depuis plusieurs années. Là, quand ils vous disent de mettre un sourire dans votre visage, quand ils vous disent d'arrêter d'être négatif, c'est pas pour rien. Parce que sinon, il va continuer de descendre. Là. Je veux dire, passer de 40 à 32, c'est une tragédie. Là. On le voyait tout de suite comme premier ministre du Québec avec un gouvernement majoritaire. Là, je vous annonce qu'il va falloir qu'il travaille les prochaines semaines.
Oui, tu as raison. Là-dessus, c'est sûr que Milliard, je te l'ai dit tantôt, et les sondages, quand Jimmy Carter, président américain, a été élu, je pense, en 76, parce qu'il a été battu par Reagan en 80, c'est un des rares présidents qui a fait juste un mandat de 4 ans, les sondages américains nous disaient que la première raison pour laquelle les gens votaient pour Jimmy Carter, on l'appelait Peanut parce qu'il venait de la Georgie, puis il y avait des champs de Peanut, ou je sais pas trop, il y avait des usines de Peanut, on l'appelait Peanut. Mais la première raison, c'était pas l'armée, puis c'était pas les budgets, puis tout ça, c'était son sourire. Parce qu'il y avait, t'avais une paire de dents, je vais te dire une affaire, là, une paire de mâchoires, c'était assez impressionnant. Puis quand je regarde Milliard, je trouve qu'il, en quelque part, je repense toujours à cette expression-là, je repense toujours à ces sondages-là aux États-Unis qui nous montraient M. Carter souriant. C'est vrai qu'il avait, c'est un homme qui avait un. Tu sais, le sourire, il n'y a pas de photo de Jimmy Carter triste, là, sauf peut-être quand il a perdu ses élections parce qu'il avait été sévèrement réprimandé par les électeurs américains à cause des prises d'otages là, des Américains en Iran en 79. Mais il reste que son sourire, c'était quelque chose d'important. Et tu as raison. Puis peut-être dans une période difficile au plan économique où les gens ont de la misère à remplir le panier d'épicerie, puis qu'il y a une crise du logement, puis qu'il y a une certaine morosité, peut-être que les gens sont comme contents de voir un individu qui a un grand sourire, des yeux clairs, puis qui regarde, puis qui est comme « Ah non, on va, faites-moi confiance. » Puis tu sais, la relation de confiance est importante. Il faut que les gens se disent « Cet individu-là, il est positif, puis il va amener du positif dans ma vie. » On en est rendu quasiment là. Puis c'est vrai que Paul-Saint-Pierre Plamondon, ben, tu sais, écoute, c'est le Parti québécois. Le Parti québécois, c'est un parti, bon, traditionnellement, syndicat, enseignant, communautaire. Bon, alors, beaucoup dans ce monde-là, puis dans ce monde-là, on est un petit peu plus intellectuel, puis on regarde les textes, puis on regarde l'histoire du Québec, puis tout ça. Puis c'est vrai que les gens actuellement ont pas mal plus le nez sur le panier d'épicerie que sur l'acte de l'Amérique du Nord britannique, c'est-à-dire Constitution canadienne de 1867, tu sais, ils ne sont pas bien ben là, mais ils devraient peut-être l'être un petit peu plus. Tu vois, quand Bernard Drinville parle du Québec, puis qu'il représente plus le côté nationaliste, le côté identitaire, les gens l'écoutent, puis ils sont contents. Mais effectivement, la question économique, si les libéraux arrivent, puis probablement que c'est ce qu'ils vont faire, parce que c'est toujours ce qu'ils ont fait, ils arrivent avec des promesses de type économique, là, tu sais, des réductions de taxes, puis d'impôts, puis contrôler le prix de l'essence, puis avoir des mécanismes de ci, de ça. Ils vont toucher au portefeuille du monde. Bien, Jean Chrétien a été élu comme ça en 93. Hein, il parlait du travailleur qui partait avec sa boîte à lunch. Je me souviens d'un débat. Ah, le travailleur de Shawinigan qui part avec sa boîte à lunch. Puis il gagnait ses débats là-dessus. Il parlait comme le monde ordinaire. C'est ça qu'il faut faire.
Je regardais les sondages à l'égard des personnalités politiques. Est-ce qu'on a une bonne opinion, une mauvaise opinion, ou est-ce qu'on connaît nos politiciens? Maître Bellemare, il y a eu des surprises là-dedans. Quels sont les politiciens les plus détestés, selon vous, au Québec? Je vous donne des noms comme ça. Paul Saint-Pierre Plamondon, Christine Fréchette, Charles Milliard, Ruba Gazal, Éric Duhaime, Bernard Drinville, Sol Zanetti.
Je pense que Éric Duhaime n'a pas beaucoup de cote au niveau de la popularité.
C'est quand même assez incroyable. Éric Duhaime est la personne la plus détestée au Québec, si on peut dire ça. Et c'est suivi de très près parce qu'Éric Duhaime, c'est 53 % des gens qui disent avoir une mauvaise opinion de lui. Et Bernard Drinville est deuxième avec 52 %.
Aimé ou pas aimé?
Mauvaise opinion.
Quand même. Ben, c'est la droite, hein? Les Québécois sont à gauche. Montréal, tout à gauche, ça vote à gauche, puis ça vote libéral au fédéral, puis ça vote dans l'est de Montréal, ça vote PQ, puis ça vote solidaire dans le centre-sud. Puis on est à gauche, les Québécois. Oublie pas ça. Il y a des gens, il y a des discours plus de droite de plus en plus, mais surtout dans la région de Québec, mais c'est un peu, on est un peu gaulois, là. Tu sais, dans la région de Québec, dans la rive sud, la Beauce, oui, il y a un discours de plus de droite. Mais en dehors de ça, là, les Québécois sont à gauche.
Ouais.
Moi, je trouve qu'ils sont à gauche. Puis là, la gauche nous a menés avec des déficits records, puis des dépenses, puis des programmes coûteux, puis envoyez donc. Puis, mais ça a l'air qu'on aime ça. On aime ça, des gouvernements dépensiers.
Donc, pour ce qui est des mauvaises opinions, c'est Éric Duhaime qui est premier avec 53% des gens qui ont de mauvaises opinions de lui. Bernard Dréville est deuxième. Pour ce qui est des personnes les plus appréciées, donc les personnes avec une bonne opinion, 43%. C'est le premier, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Christine Fréchette, deuxième à 40%. Charles Milliard est à 37%, donc bon troisième à 37%. Par contre, lui, il a vraiment un déficit là, de notoriété. 45% des gens, Maître Bellemare, qui ont entendu le nom de Charles Milliard disent « J'ai aucune idée c'est qui, fait que j'ai pas de bonne ou de mauvaise opinion. » 45%. Et s'il y avait des élections demain matin, si on en croit le sondage léger, ce serait Charles Milliard qui deviendrait premier ministre.
Oui, c'est ça. Mais comme je te dis, le sondage, fais attention à ça. Tu n'as pas le nombre de comtés, tu n'as pas les répartitions par comté. Qu'est-ce qu'ils disent, Québec 125? Là, ils disent, ça a l'air que la CAQ n'a aucun député.
Exactement. S'il y avait
moi,
des élections...
Moi, j'ai confiance dans Québec 125 parce qu'eux autres, ils sont comptés par comté. Fait qu'ils vont te dire, dans Drummondville, PQ passe par 3000 voix. Dans Victoriaville, par 2500 voix. Dans Saint-Hyacinthe, dans Saint-Jérôme, ça rentre par 500 voix. C'est ça qui compte, parce que, je te le dis, la CAQ a ramassé 90 députés, puis ils ne sont pas là sur l'île de Montréal, ou presque. Alors, pourquoi tu penses? Parce que les francophones, ça passe par 1000-2000 voix, puis Legault est allé chercher 90 députés comme ça.
Non, c'est pas. S'il y avait des élections demain matin.
Les libéraux vont se carrer dans le Québec francophone, en dehors de Montréal. Il va falloir qu'il y ait des propositions intéressantes qui touchent l'identité, la laïcité, la langue. Puis c'est là que M. Milliard risque de, à mon avis, de connaître quelques difficultés. Parce que là, lui, il y a sa clientèle anglophone puis allophone là, qui pousse pour qu'on aille, on laisse tomber toutes les questions les signes religieux, puis que la langue, c'est trop sévère, puis c'est pas vrai que le Québec est menacé, puis ça a toujours été le problème. Puis Legault est rentré en 2018 sur les questions d'identité parce que Couillard n'arrêtait pas de taponner sur la question, puis Charest aussi. Puis les gens étaient écœurés de voir que les libéraux laissaient passer à peu près n'importe quel accommodement, puis n'importe quelle concession sur l'identité, puis sur la langue. Legault a au moins réglé ça. Mais ça peut venir hanter les libéraux encore la prochaine fois, on ne sait pas. Ça va être dans le courant de l'été, probablement que M. Milliard va se brancher là-dessus. Il n'y a pas le choix que de le faire un jour. Là.
Puis je termine avec le dernier coup de sonde là, de la ferme Léger qui est un peu passé dans le beurre en fin de semaine avec l'élection de Christine Fréchette. On a posé la question aux Québécois et aux Québécoises. Est-ce que vous avez un intérêt pour la course à la chefferie de la coalition Avenir Québec? Puis par le fait même, est-ce que vous avez un intérêt pour savoir qui sera le futur ou la future première ministre du Québec? Maître Bellemare, 70% des répondants disent « total, aucun intérêt ». Zéro.
C'est dimanche, hein?
Il n'y avait pas d'intérêt.
Ben, les débats, c'était pareil. Tu sais, ils faisaient ça en milieu de journée, les samedis, des affaires de... Qui c'est qui écoute ça?
Ouais. On a un 3% de refus, mais les gens, là, c'est une personne. Mettons, c'est 27%. Donc, une personne sur quatre au Québec qui est intéressée par ça. Moi, je vous le dis, depuis que je suis jeune, là, je me suis fait dire ça. Si tu t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Ça en dit gros. Là, les politiciens ont le champ libre pour faire à peu près n'importe quoi. Là. 27% des gens s'intéressaient beaucoup ou encore un peu à l'élection du futur ou de la future première ministre du Québec. Je trouve ça hallucinant. On a une responsabilité en tant que payeur de taxes, c'est de suivre ça, puis d'aller aux urnes une fois aux quatre ans, là, pour ce qui est du provincial.
Les gens sont plus... Écoute, si tu regardes l'actualité télévisée dans les grands réseaux généraux, puis en général, puis même au 102.1, tu sais, dans à peu près toutes les chaînes de radio puis de télé, on parle beaucoup, beaucoup de la guerre. Pourquoi? Parce que ça a un impact à la pompe.
Le prix de l'essence, exact.
Enlève ça, là. Admettons qu'il y a une guerre en Iran et qu'il n'y a pas d'impact sur le prix de l'essence. Il n'y a pas un choix qui en parlerait. Ça serait comme dans le fond du monde, là, dans le fond du bois, là, puis ça se chicane, puis chicanez-vous jusqu'à temps qu'il n'en reste plus un. Là. Ouais. Mais là, c'est pas ça qui se passe. À cause que ça a un impact sur la consommation, sur l'essence, l'impact sur l'essence a un impact sur l'épicerie, parce qu'il faut transporter les cocombes, il faut transporter les oranges, il faut transporter les bleuets, etc., quand ça vient de loin. Alors là, ça a un impact là-dessus. Après ça, bien, c'est les employés qui doivent se déplacer en voiture, etc. Alors, ça a un impact important. Donc, on s'intéresse à la guerre, mais je suis convaincu que si on regardait là, l'impact médiatique de la guerre avec l'essence, parce que pour moi, c'est indissociable, et qu'on comparait ça avec la campagne à la chefferie de la CAQ, je pense que c'est du 5 pour 1. Là, les gens sont pas intéressés. Puis d'autant plus qu'ils se disent, ben de toute façon, la plupart des gens qui s'intéressent à la politique, à qui tu vas parler demain matin, il n'y en a pas beaucoup qui vont dire, ah, oh, moi, je vote pour la CAQ, même avec Mme Fréchette. Les gens vont dire, ah, oh, moi, je trouve qu'il y a des qualités du côté libéral, des qualités du côté du PQ, puis tout ça. Mais les gens qui s'intéressent, qui écoutent l'actualité, de façon générale, j'en connais pas beaucoup, mais qui vont dire, ah, oh, moi, je suis encore de la CAQ, puis je vais voter pour la CAQ au mois d'octobre prochain. Alors, remarque bien que ça peut changer, là. Mais M. Legault, ce qu'il aurait dû faire, là, c'est vraiment assainir les finances publiques, donner un équilibre budgétaire, ou en tout cas le plus possible, pour donner une marge de manœuvre financière à sa succession.
Là, ben, comme il avait promis en 2017, il faisait des promesses en 2017, des promesses de droite économique, assainissement des finances de l'État, un plus petit gouvernement. On va faire attention au monde pour ce qui est de la santé, on va en prendre soin. Encore là, il n'y a rien qui a changé depuis que François Legault est a fait toutes ces années en politique. C'est assez particulier.
Mais là, il laisse comme héritage des problèmes financiers, mais il laisse aussi, tu sais, la FTQ a le couteau d'un dent, les syndicats sont sur le bout de leur chaise, les gens sont écœurés. Alors, c'est dans le pire contexte, Mme Fréchette. Bonne chance.
Le salaire des députés a été bonifié de 30%. C'est ce qu'on va lui donner. Maître Bellemare, on doit faire une courte pause. Je vous rappelle que chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare. Si vous avez des dossiers à jaser de la, je sais pas moi, des problématiques avec la CNESST, la SAAC et l'IVAC, c'est bellemareavocat.ca. On fait une courte pause et on vient tout de suite.
Marceau, le soir. Tous les midis, à Boulevard 102.1, on en jase.
On parle avec Bernard Drainville, candidat à la chefferie de la CAQ. Il est en studio avec nous.
Refaire l'unité quand, en plus, on a les sondages qu'on a en ce moment, qu'on voit qu'il y a une vague de départ, il va falloir aller chercher des candidats. Je veux dire, si en plus vous perdez la moitié du monde parce qu'ils sont frustrés après la course, c'est quand même un défi important.
Ben oui, mais ça va être un défi important, Antonine, peu importe. La côte qu'on a remontée, elle est à pic.
Mais faire le conseil des ministres, ça va être compliqué, là.
Ouais, mais là, on va trouver... on a des bonnes candidatures.
Gagnant, perdant, on parle-tu lundi matin?
Veux-tu... Vas-y, mollo, là.
Manche aussi, on est en onde, dimanche aussi.
Ça peut être lundi matin, comme vous voulez.
Vous êtes pas barré. Non, mais...
Ben là,
on en reparle.
Moi, je vais avoir le futur premier ministre là, en onde lundi matin. Là. Je peux-tu?
Coudon, t'as-tu mangé de la tire sans neige en fin de semaine, toi?
Oui.
Avec Jeff Fortin, Pascal CV et Antonine Iaccarini, on en jase. Tous les midis à Boulevard 102.1.
Ce segment d'émission présenté par Chapeau Ben Lévy qui fête son premier anniversaire. Chapeau Ben, le centre de liquidation présent à Québec, Lévis et Saint-Georges. ChapeauBen.com. Ce segment d'émission présenté par Option Paysagiste. Imaginez une cour parfaite, pavée, piscine, éclairage chaleureux et espace pour relaxer et recevoir. Pour votre cours de rêve, c'est optionpaysagiste.ca. Chapeau Ben Lévy fête son premier anniversaire. Du 1er au 3 mai, stand de hot dog, dégustation, tournez la roue et courez la chance de gagner des centaines de cadeaux au magasin de Lévy. Desjardins Volkswagen, tout près de Le Bourgneuf, Lac-Beauport et Val-Bélaire. Jusqu'au 30 avril, faites un essai routier et courez la chance de gagner 750 $ en essence. 0% jusqu'à 60 mois sur le Taos 2026 et plus de 75 Tiguan disponibles pour livraison rapide. DesjardinsVolkswagen.ca.
Salut, c'est Denis Gravel. Tous les lundis, 19h à Boulevard 102.1, manquez pas les podcasts des grands événements de Québec, la deuxième saison de notre série balado où on révisite les moments marquants qui ont façonné notre ville. Chaque épisode, je m'assois avec ceux qui y étaient, qui ont vu, entendu et vécu. On revient sur la tuerie de l'Halloween, l'histoire du FEC, le départ des Nordiques, la guerre des Hells et le 400e de la Ville de Québec. Des événements qui résonnent et qui doivent encore résonner aujourd'hui. Les grands événements de Québec tous les lundis 19h et dispo partout le lendemain sur YouTube et toutes les plateformes balado.
Le podcast Grands événements vous est présenté par Climatisation Paquette et sa vente de produits Mouvert.
La marque la plus fiable selon Protégez-vous.
Climatisation Paquette!
La vente étiquette rouge est de retour. Profitez du meilleur des deux mondes avec la Prius hybride branchable. Roulez jusqu'à 962 km avec une charge complète et un plein d'essence. Et profitez d'une autonomie électrique améliorée de 50 %. Ajoutez à ça une conduite dynamique propulsée par 220 chevaux. Comptez sur plus de 25 ans d'expertise avec les véhicules électrifiés. Obtenez jusqu'à 8000 $ en rabais gouvernementaux et incitatifs clients. Pendant la vente étiquette rouge, visitez htmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
Tu veux choisir un programme qui te ressemble? Au Collège O'Sullivan, on a une place pour toi. Découvre nos decks en administration, assurance, informatique et animation 3D. Samedi 18 avril de 10h à 11h, assiste à notre séance d'information en ligne pour tout savoir sur les programmes offerts à l'automne 2026. Échange avec notre équipe, pose tes questions et clarifie ton choix de programme. Avec des formations actualisées, un environnement bilingue et des enseignants issus de l'industrie, tout est en place pour ta réussite. Les inscriptions sont ouvertes. Le 18 avril, c'est un rendez-vous en ligne au Collège O'Sullivan de Québec.
Vous avez un véhicule à vendre? Chez Lévy Ford, on rachète votre véhicule sans obligation d'achat. Toutes les marques sont acceptées et obtenez la meilleure valeur pour votre véhicule. Et si vous voulez changer, Lévy Ford a aussi les meilleures offres pour votre nouveau camion. Lévy Ford, les forts de Lévy.
Pour un animal heureux, actif et en santé, passez chez Dino. Profitez présentement de rabais sur des traitements contre les puces et sur des produits de toilettage et d'entretien pour chiens et chats. Visitez dino.ca pour voir tous nos autres spéciaux du mois.
Devoir partir vite, vite du boulot pour le concert de flûte de Léo. Pas un hit. S'arrêter illico au Yuzu pour commander un combo avant le show. Ça, c'est un hit. Yuzu Sushi, le hit de ta journée.
La toute nouvelle Crosstrek 2026 est enfin en stock chez Lévis Subaru, le VUS le plus populaire et le plus abordable pour toutes vos aventures. Polyvalente, fiable et prête à vous suivre partout. Pour votre prochain Subaru, une seule destination s'impose. LévisSubaru.com.
Si votre maison déborde d'intelligence, avec des télés intelligentes, des téléphones intelligents, des tablettes intelligentes, puis même un lave-vaisselle intelligent, ben, je pense que le choix intelligent, c'est de passer au Wi-Fi 7 avec l'Internet Bell Pure Fibre. Connectez tous vos appareils intelligents au Wi-Fi capable d'en prendre. Passez à Fibre 500 pour 75 $ par mois. C'est intelligent, ça. Bell, tout part d'une connexion.
Le printemps s'installe et à l'Institut Diva, on en a profité pour se refaire une beauté. Nouveau site web, boutique en ligne revisitée, tout est en place pour mieux prendre soin de vous. Institut Diva, coiffure, massothérapie, esthétique. InstitutDiva.com.
Bonjour, vous cherchez un véhicule en particulier?
Je regarde pour un véhicule sport avec beaucoup d'espace intérieur, surtout pour les passagers.
Ah, facile! Kia K4 Hatchback.
OK, mais la polyvalence pour la ville, plein de technologies?
Vous pourriez essayer le Kia Seltos?
Puis si je veux aller un peu plus gros, comme en vue d'une famille?
Peut-être un Kia Sportage.
Hey, vous avez vraiment une Kia pour tout?
Pas mal, oui.
Trouvez la Kia qui vous convient et profitez d'offres exceptionnelles à la location et au financement ce printemps. Visitez Kia.ca pour les détails.
Kia, du mouvement vient l'inspiration.
Boulevard 102.1, 100% parlé en semaine, avec les meilleures émissions d'actualité à Québec. Leclerc Communication, le radiodiffuseur numéro 1 à Québec. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Maître Marc Bellemare est avec nous comme chaque lundi soir. Vous avez les dossiers de SAC, d'IVAC, de CNSST, c'est bellemareavocat.ca. Maître Bellemare, j'ai le goût de me gâter un peu à soir. On va parler un peu du Canadien de Montréal qui est juste hallucinant à voir aller. Les statistiques personnelles de certains joueurs du Canadien sont hallucinantes. En fin de semaine, Suzuki a fait son 100e point. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Je pense que le dernier à avoir fait 100 points chez le Canadien de Montréal, c'était Mats Naslund. Ensuite, on a Cole Caulfield qui a été capable de faire son 50e but dans les derniers jours. Il a rattrapé Stéphane Richer, qui était le dernier à l'avoir fait. Et Lane Hudson, au niveau des passes, a réussi à rattraper Larry Robinson. On a un beau club cette année, Maître Bellemare, puis si ça peut continuer comme ça avec les nouveaux qui s'en viennent en bas, ça va être de toute beauté le Canadien dans 2-3 ans. Là.
Bien sûr, puis j'aurais aimé ça hier contre les Highlanders si notre ami Martin Saint-Louis, le coach du Canadien, avait laissé Caulfield sa glace pour essayer de poter au moins dans un filet désert une couple de fois. Parce que j'aimerais ça qu'il gagne, Caulfield, le trophée Maurice Richard, qui est le trophée remis depuis 1998 au meilleur buteur de la Ligue nationale. J'aimerais ça qu'il réussisse, mais là, il va y rester demain la game à Philadelphie. Je pense que c'est à 82e, ça se termine comme ça.
Ouais.
Alors, il faudrait quasiment qu'il rentre 3 buts pour dépasser McKinnon, qui est en tête des buteurs de la Ligue nationale.
Mais ça compte-tu, McKinnon? Il y a beaucoup de buts dans des filets déserts.
Oui, mais je sais, Yannick, mais tu sais, dans 25 ans, j'aimerais ça qu'on puisse dire que Caulfield a remporté le trophée de Maurice Richard, parce que Maurice Richard, c'est un petit Québécois, puis il n'y a jamais eu de joueurs du Canadien qui ont gagné le trophée Maurice Richard.
Ah, c'est jamais arrivé?
Non, c'est jamais arrivé. Alors, tu sais, il y a Ovechkin qui l'a eu, je pense, 8 ou 9 ans, et c'est un gros prix. Puis hier, j'ai été un peu surpris que, tu sais, parce qu'on s'en fout des filets déserts, on ne regarde pas ça, on regarde les statistiques, puis on se dit, mon Dieu, que ce serait le fun s'il y avait ce trophée-là. J'aurais aimé ça, mais là, on s'en va en série bientôt. Et je regardais la semaine passée contre Tampa Bay, qui c'est l'ancien Canadien là, qui bavait Hudson. Là,
Perry.
Corey Perry. Qui, écoute, il a un pied de plus grand, puis il a 50 livres de plus, puis il allait écœurer Hudson. Tu sais. Sais-tu que ça a été quoi mon image? Je me suis dit, on va checker la première période du premier match de quart de finale, puis on va voir sur qui essaye de taper. Parce que moi, je pense que les adversaires, surtout si c'est Tampa Bay, ils vont viser Hudson, puis ils vont viser Caulfield, les deux plus petits joueurs de l'équipe, puis ils vont essayer de les sortir. Garde bien ça. Comme Washington a fait l'année passée, quand ils ont sorti, c'est Carrier qui s'était fait planter là, dans les premiers matchs.
Ben en fait, Carrier s'est fait planter, Lane Hudson s'est fait ramasser par...
C'est ça. Alors maintenant, si tu élimines, si ou tu neutralises, ou tu as peur, parce que ouais. Tu n'es pas obligé de tuer, là. Mais juste là, les rendre plus craintifs, d'aller d'un coin, surtout pour un défenseur, tu sais, Caulfield, l'échec avant, tout ça. Ces gars-là vont d'un coin en général, même les petits joueurs. Mais je me suis dit, est-ce que ça ne sera pas une stratégie, parce que dans les séries, là, tous les coups sont permis, hein, puis les arbitres ne sifflent pas, là, ou à peu près pas. Alors, surtout en troisième période. Mais je pense qu'il va falloir que M. X, là, l'autre défenseur. Là.
Jack Eye,
il va falloir qu'il soit sur la glace en commençant. Là.
Ouais. Jack Eye et Strobel, le problème étant que quand on les met les deux sur la glace, puis heureusement, ils ne jouent pas toujours ensemble, mais quand on les met les deux sur la glace, on dirait que c'est un défenseur et demi qu'on a sur la glace et non deux. Ouais. Normalement, ça va bien jouer à deux. Là.
Je le sais, mais il va falloir, quand Caulfield et Hudson vont être là, moi, je pense qu'il va falloir que Martin Saint-Louis tienne compte de ça parce que je te le dis, je te le donne d'entre mille. Les adversaires vont essayer d'intimider, de blesser à la limite Hudson puis Caulfield, qui sont des petits joueurs, mais qui sont vraiment les plus talentueux. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'Hudson est le meilleur défenseur du Canadien, puis Caulfield avec Suzuki, mais Caulfield est un attaquant évidemment incontournable. C'est lui le poteux, là, c'est lui le buteur. Et je regardais ça quand j'ai eu le flash quand j'ai vu Corey Perry bavé, puis je regardais le format du joueur, tu sais, le gabarit, tu sais, à côté d'Hudson, puis je me suis dit, si ça s'en vient en quart de finale, Tampa Bay contre Canadien, parce que ouais. Ça va être Buffalo contre Canadien, Tampa Bay contre Canadien, ouais. On verra bien mercredi, mais si c'est Tampa Bay, ça, je me suis dit, cette image-là d'un gros joueur qui s'attaquerait à Hudson risque de nous être reproduite à quelques reprises dans les séries. C'est toujours la même affaire. Hein? C'est les séries de la Ligue nationale, c'est une série de bûcherons. Là. C'est à peu près pas le plus fort. Ben, c'est tristement ça. Oh,
oui.
Boston a gagné sa Coupe Stanley comme ça, puis Washington, puis la Floride aussi.
Demain, c'est contre les Flyers, si je ne m'abuse. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est
à
contre
Philadelphie, les Flyers. Ouais.
Ça va être le dernier match de la saison. Puis après ça, ben, la vraie, vraie saison de hockey palpitante va débuter avec les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Puis si on gagne demain, si je ne me trompe pas, on gagne l'avantage de la patinoire.
De la glace.
Oui. On gagne l'avantage de la patinoire. Fait que ça va être un match qui est quand même assez important pour le Canadien demain. Maître ouais. Bellemare, c'est toujours un plaisir. Bellemareavocat.ca pour les gens qui veulent vous rejoindre si ces gens-là ont des dossiers de SAC, d'IVAC ou de CNUSST à vous soumettre. On se reparle lundi prochain.
Parfait. Merci. Bonne semaine, tout le monde.
C'est toujours un plaisir. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Ce segment d'émission présenté par Chapo Ben Lévy qui fête son premier anniversaire. Chapo Ben, le centre de liquidation présent à Québec, Lévis et Saint-Georges. ChapoBen.com.
Tu penses qu'acheter une auto pas neuve, c'est pas avantageux? Ben non. Comme une neuve, t'as des garanties et du financement. Pour une voiture, c'est Charlebourg Toyota. Va voir les avantages au comme-neuve.com.
À vous qui roulez sur des nids de poule, on réaligne votre véhicule en un rien de temps. À vous qui freinez à la dernière minute, on change vos freins pile quand il faut. Parce que vous savez qu'on est toujours là quand vous en avez besoin. Chez Pneus Ratés, on n'est jamais bien loin. Maîtrisez